Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, cette semaine, l'Espagne et le Portugal ont été plongés dans un blackout complet, bon, la dernière semaine de mars, et des blackouts de cette envergure, eh bien, ça arrive très rarement. On en note 4 grands dans l'histoire des blackouts, celui de fin 99 en France suite à la Grande Tempête, un autre en 2023 au nord-est des États-Unis et au Canada qui était lié au froid, un autre en 2012 en Inde qui était lié à la Grande Sécheresse et en 2025 le Chili, l'Espagne et le Portugal. Alors, en fait, on s'aperçoit que ces blackouts sont souvent liés à des problèmes climatiques. Et effectivement, pour l'Espagne et le Portugal, on a parlé d'une grande dépression. En fait, très rapidement, le sujet a été réglé, le courant a été rétabli en moins de 2 jours et les hôpitaux ont continué de fonctionner grâce à des générateurs. Alors, pour nous en parler... France Info.
Pendant des heures, il a fallu apprendre à vivre sans lumière, circuler avec comme seul repère ses bâtons fluorescents.
Je pars du travail et dois rentrer chez moi, trouver ma maison dans le noir, sans rien.
Aujourd'hui, dans les rues de Madrid, les feux tricolores fonctionnent à nouveau et la circulation est fluide. Les commerces rouvrent et les habitants peuvent à nouveau joindre leurs proches. Reste une question, que s'est-il vraiment passé ?
15 gigawatts d'électricité ont été soudainement perdus, et le tout en 5 secondes. 15 gigawatts, c'est 60% de la demande espagnole à cette heure-là.
L'origine de la panne n'est toujours pas déterminée, mais la piste d'une cyberattaque est désormais écartée.
Alors effectivement, pour l'instant, pas de suspect numéro 1. On sait que la cyberattaque a été rejetée, ainsi que les problèmes d'attentats. Mais donc, on lie l'événement au système électrique qui aurait été déficient. Mais finalement, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce que c'est parce que l'Espagne manque, est-ce que l'Espagne manque d'énergie pilotable ? Est-ce que parce que l'interconnexion ne s'est pas faite ? Enfin, on est en train d'étudier un peu toutes ces possibilités. En tout cas, cet équilibre, vous savez que l'électricité doit toujours être en équilibre permanent entre la question de l'offre et la question de la demande. Là, on avait une demande qui restait égale à elle-même et comme l'offre a été suspendue, a perdu en données, eh bien, c'est pour cela qu'on est arrivé au blackout. Mais vous allez voir, cette question est finalement beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air.
Comment se fait-il que plus de 24 heures maintenant après le début de cette panne, on ne sache toujours pas la cause exacte ?
Et oui, ça c'est un peu gênant pour les Espagnols, mais aussi pour les Français, mais aussi pour le reste des Européens, parce qu'il faut comprendre pourquoi cette panne a eu lieu, pourquoi ce blackout s'est généré. Est-ce que c'est une cyberattaque ? Votre réponse est non. Est-ce que c'est des attaques ? La réponse est non. Est-ce que c'est le premier blackout de l'ère verte, de la transition verte ? C'est peut-être cela, mais on a besoin de le savoir. Et nous, Européens, on a besoin de savoir encore plus, je dirais, que les Espagnols, parce que quand même, il faut se rappeler que la transition énergétique en Espagne, elle a été menée par Teresa Ribera, et que Teresa Ribera, aujourd'hui, elle est vice-présidente de la Commission européenne en charge de la transition propre. Donc, effectivement, si la transition énergétique ne s'est pas bien déroulée en Espagne, et ça a quand même coûté 1 milliard à l'économie espagnole, ce blackout, eh bien nous, Européens, nous avons besoin de le savoir pour adapter notre transition énergétique.
On va revenir évidemment sur les pistes qui sont évidemment sur la table. Mais on l'a dit, Christophe Gascard, a priori, le gouvernement écarte la piste de la cyberattaque. Voilà. Bon, il y a quand même une enquête qui est ouverte.
C'est toute l'ambiguïté. La piste de la cyberattaque est effectivement écartée en Espagne et au Portugal. C'est ce que l'on apprend. Mais Dans le même temps, on apprend que la justice espagnole ouvre une enquête sur un éventuel sabotage informatique. Le juge de l'audience nationale, José Luis Camala, a donc ouvert cette enquête préliminaire pour déterminer effectivement si la panne de courant donc survenue hier dans le réseau électrique espagnol et qui avait affecté donc tout le pays pourrait être un acte de cybersabotage contre des infrastructures civiles. Espagnol. Ce qui prouve donc, à l'heure où l'on se parle, 24 heures après, qu'en fait on est un peu dans le flou, très clairement, parce qu'il y a différentes hypothèses. Cyberattaque qui est mise de côté par les autorités et de l'autre côté, la justice espagnole qui ouvre quand même une enquête. Pour l'instant, toutes les options sont ouvertes.
Thierry Brosse, il y avait d'autres pistes qui ont été, elles, pour le coup, écartées d'incendie sur une ligne ou de panne matérielle isolée. Ça, a priori, c'est écarté.
Absolument.
Parce que ça n'aurait pas pu, pour qu'on comprenne comment ça se passe, ça n'aurait pas pu avoir ce type d'incidence à ce niveau-là, local.
Ce que dit le Premier ministre, c'est que finalement, ils ont perdu 60% de leur capacité de production en quelques secondes cela, on ne peut pas le rééquilibrer.
Ça ne peut pas non plus être lié à une saturation de la consommation. Puisque ça arrive en hiver ou pendant une canicule, là, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un problème de ce type-là, en cette saison.
Alors, pas forcément, parce que je vous rappelle que l'électricité, la difficulté de l'électricité, c'est qu'il faut que la demande soit équilibrée à l'offre à tout instant. Et comme en Espagne en particulier, on a mis beaucoup de renouvelables et peu de batteries, eh bien, vous avez ce risque-là. Alors, c'est peut-être l'offre qui a baissé de 15%, mais c'est peut-être aussi de l'autre côté un problème de demande. On ne sait pas bien aujourd'hui, on imagine que c'est plutôt un problème de production qu'un problème de demande. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que l'électricité, c'est compliqué parce que vous devez équilibrer l'offre et la demande à tout instant. Et en plus, c'est plutôt
en temps réel.
En temps réel. Et en plus, dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est plutôt un problème de fréquence. C'est-à-dire qu'il faut que votre réseau fonctionne à 50 Hz pour alimenter l'intégralité de l'Espagne et de l'Europe à la même fréquence. Donc vous avez un problème de fréquence en plus qui est plutôt celui-là qui serait à l'origine de du blackout.
Alors, il y a une des pistes que vous évoquiez, effectivement, c'est la piste de l'efficience de l'énergie renouvelable qui, là, peut-être, a posé question. Je vous propose d'écouter André Merlin, fondateur de RTE. Il était tout à l'heure sur notre antenne. Écoutez son analyse.
Avant que ceci se produise, il y avait les deux tiers de l'électricité au niveau de la péninsule ibérique qui étaient produites à partir de panneaux photovoltaïques. Le fait qu'il y ait eu une dépression qui est venue très rapidement sur la péninsule ibérique, je pense que ça a fait baisser très rapidement la production d'origine photovoltaïque. Et à partir du moment où ce déséquilibre n'est pas résorbé rapidement, en l'espace de quelques
C'est-à-dire
secondes...
C'est-à-dire que d'un coup, il y avait plus de demandes que d'offres.
Voilà, exactement.
Cela.
Exactement. Et donc, il y a eu un effondrement du système électrique, c'est-à-dire une mise hors tension sur les deux tiers du territoire de la péninsule.
Thierry Brosse, c'est ce que vous expliquiez à l'instant, c'est-à-dire qu'a priori, il y a eu plutôt un problème de l'offre, mais ce qu'explique notre invité tout à l'heure, c'est quand même un peu inquiétant. C'est-à-dire que là, ce serait peut-être une dépression qui est passée sur l'Espagne et qui aurait provoqué, en fait, ce dysfonctionnement.
Et oui, parce que...
Là, si on se dit qu'une dépression sur un pays peut provoquer un tel chaos, effectivement, ça pose des questions pour la suite.
Oui, mais ça, on le savait. Je veux dire, une dépression ou qu'il y ait du vent ou pas du vent pour les éoliennes, c'était le même problème. Et donc, effectivement, ce qu'il faut, c'est avoir un plan B. Quand vous avez une stratégie électrique et votre plan B, c'est des énergies pilotables, c'est-à-dire des centrales à gaz, des centrales nucléaires pilotables, des centrales à charbon, si vous avez encore du charbon. Si vous les avez enlevées, eh bien, à ce moment-là, vous n'avez plus de pilotables et donc vous n'avez plus de plan B. Et donc, ce qui s'est passé en Espagne, c'est, eh bien, face à ça, ils n'ont pas été en capacité, c'est ce que votre invité expliquait tout à l'heure,
de compenser très rapidement.
Et à ce moment-là, tout le système s'effondre.
Et est-ce que, parce que vous le disiez aussi, il y a une interconnexion des systèmes européens. Là, j'ai les chiffres, je crois, de RTE sous les yeux. Voilà, il y a 37 liaisons transfrontalières en France. Il y a effectivement un système totalement, une interdépendance totale. Est-ce que la France n'aurait pas pu, compenser beaucoup plus rapidement ? Est-ce que là, il y a eu un problème de gestion ?
Alors, la France, il semblerait, se soit déconnectée. Quand il y a eu une instabilité sur le réseau ibérique, la France s'est déconnectée. Donc, nous avons été sauvés parce que le réseau espagnol a été déconnecté. Et à ce moment-là, évidemment, on ne peut plus aider les Espagnols. C'est après qu'on a été en capacité d'aider les Espagnols. Mais la première chose, c'est que le système français a déconnecté vis-à-vis d'un système espagnol qui n'était plus à la fréquence.
Ah, c'est ça, c'est-à-dire par raison de protection, automatiquement
absolument.
Le système se déconnecte.
Si les informations qu'on a sont les bonnes.
Peut-être pour revenir sur ce qui a été déclaré, on a entendu, l'Union européenne tirera les leçons de cet incident d'une ampleur inédite. Concrètement, qu'est-ce que ça peut signifier, Christophe Gascard ?
Parce que c'est important, et d'ailleurs le Premier ministre a lancé une commission d'enquête sur les causes de cette méga panne, parce qu'il faut comprendre d'où ça vient, et nous sommes interconnectés en Europe. Et c'est important de le voir. Alors nous, dans notre position géographique française, déjà on est différent des Espagnols parce qu'on a une indépendance énergétique grâce notamment au nucléaire. Mais vous le savez, nous avons des voisins qui pourraient prendre le relais si c'était le cas, en l'occurrence l'Allemagne ou encore l'Italie. Et ce n'est moins le cas pour l'Espagne parce que vu sa position bien géographique, si effectivement nous, la France, nous coupons pour nous protéger ici, eh bien en fait nous n'avons plus moyen d'aider l'Espagne et le Portugal. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu ça. Néanmoins, ce n'est pas le seul pays qui a été aussi touché. Hein. Par périphérie, on a aussi appris que cette panne géante avait eu des conséquences jusqu'au Groenland, avec des SMS, de téléphone et Internet et tous les moyens de communication qui avaient été donc coupés hier soir. Pourquoi ? Parce que c'est géré en partie donc de l'Espagne. Et puis au Maroc, ça a été également impacté par cette panne ibérique avec les connexions d'Internet d'Orange et les systèmes d'enregistrement et d'embarquement des aéroports qui ont été interrompus hier. Donc on le voit bien que nous sommes dans cette Europe interconnectée, raison pour laquelle il sera utile effectivement de savoir comment, pourquoi et surtout comment agir si ça nous arrive.
Quand on dit l'Union européenne va tirer les leçons, ça veut dire quoi concrètement ?
Écoutez, j'espère qu'elle va tirer les leçons parce qu'effectivement, il faut comprendre si c'est le premier blackout de la transition énergétique, il faut peut-être s'asseoir, réfléchir et voir comment est-ce qu'on va adapter la transition énergétique. Il y a quelques jours, l'Espagne nous disait être très heureuse d'avoir 100% d'énergie renouvelable dans son mix. Donc je crois qu'il faut vraiment que l'Union européenne s'attarde à ce sujet-là et nous explique comment ils veulent faire et quels changements on va mettre. Parce que les déclarations à l'emporte-pièce des politiques, on en a eu beaucoup. Je vous rappelle que la commission von der Leyen 1, au début, nous parlait d'hydrogène comme solution au mix énergétique. Bon, aujourd'hui, on n'en est plus là, mais il va falloir effectivement que l'Europe regarde et tire les leçons pour les Européens et pour les Français en particulier.
En France, quelle est la répartition du mix énergétique ? Est-ce que ça pourra arriver, par exemple, chez nous ?
Le problème, ce n'est pas qu'un problème de mix électrique, c'est un problème de réseau. Je crois que ce qu'on a oublié, c'est que pendant 20 ans, on ne s'est pas trop préoccupé du réseau. Je revenais aux déclarations politiques. Les politiques nous ont expliqué on veut faire des centrales ou on arrête les centrales nucléaires, mais personne ne s'est jamais occupé du réseau. Aujourd'hui, c'est finalement la revanche des ingénieurs. Les ingénieurs, vous avez besoin d'un réseau résilient. Et donc, il va falloir mettre de l'argent dans le réseau, regarder l'entretien du réseau.
La
modernisation. Et je pense que la modernisation du réseau, elle va pouvoir bénéficier en plus aujourd'hui de tout ce qui est intelligence artificielle. Parce que équilibrer, je vous ai évoqué ça tout à l'heure, équilibrer l'offre et la demande, l'intelligence artificielle est capable de le faire finalement mieux que l'humain.
Vous me corrigerez peut-être, mais le chiffre annoncé par RTE, c'est 100 milliards d'euros investis justement dans l'entretien. C'est pas suffisant ?
Mais on n'a finalement pas beaucoup investi sur le réseau historique. On a beaucoup investi sur les connexions et les interconnexions pour connecter les nouvelles fermes solaires, les nouvelles fermes éoliennes, etc.
Et sachant que d'ici 2035, RTE prévoit de doubler ses capacités d'interconnexion. Donc effectivement, il y a un effort
Mais le réseau historique
existant
finalement, il doit être transmis, mais il doit aussi être upgradé. C'est-à-dire, on doit rajouter cette intelligence artificielle qui finalement, on ne pouvait pas le faire. Je pense que c'est l'occasion de faire passer le réseau du 20e au 21e.
Alors, on l'a vu, tout le système est lié. Alors, est-ce effectivement le premier blackout de la transition énergétique ? Pour Thierry Brosse, professeur à Sciences Po, donc et spécialiste des questions énergétiques, on le sent, la solution serait d'avoir des énergies renouvelables et de garder le nucléaire pour pouvoir les piloter. Or, il n'existe pas seulement une capacité de pilotage qui soit liée seulement au nucléaire. On sait aujourd'hui, au nucléaire ou au charbon bien sûr, mais ça maintenant, on n'en parle plus. Il existe quand même un plan B pour les ENR et on sait désormais stocker l'énergie et ce pourrait être ce qui prendrait la place en cas de dépression. L'objectif est clair. Il faut défendre les sciences et les humanités, la liberté académique et l'université comme piliers d'une société démocratique. Le 47e président des États-Unis, on connaît comme climato-sceptique et qui met régulièrement en doute la réalité et la gravité du réchauffement, a multiplié les fronts contre la science du climat et de l'environnement. Comme on peut le lire sur le site de Novetic, on assiste à une censure d'informations sur l'état de l'environnement, menace sur des agences reconnues au niveau mondial. Après avoir dénoncé l'accord de Paris, l'administration de Donald Trump entend bien entraver le travail des climatologues, et pas seulement des climatologues américains. Son objectif principal, c'est d'empêcher le GIEC de publier son 7e rapport d'évaluation. Les membres du GIEC se demandent comment ils vont pouvoir travailler sans les données américaines. Pour y parvenir, cela a commencé par la suppression d'au moins 8000 pages web sur les sites fédéraux, mentionnant des sujets désormais interdits, touchant au changement climatique, à l'environnement, à la biodiversité et aux études de genre. Donald Trump a également annulé le financement fédéral américain destiné aux projets internationaux de lutte contre le changement climatique qui s'élevait à quelque 11 milliards de dollars en 2024, soit environ 10% du financement public mondial annuel de ce domaine. Un coup dur qui risque de retarder les efforts visant à accroître la résilience des pays les plus touchés. Et ça continue. Cette semaine, c'est 800 postes de la diplomatie climatique qui viennent d'être supprimés. Mais en fait, c'est une contradiction de plus chez Donald Trump. Il faut dire que depuis les 100 premiers jours, on en voit une tous les jours. Le très climato-sceptique Donald Trump détruit tout ce qui peut conduire à des prévisions, à des connaissances sur le sujet du climat. D'un côté, il amasse les réserves fossiles, mais de l'autre, on le voit signer un accord avec l'Ukraine pour les métaux rares, indispensables à la transition énergétique. Et pendant ce temps, la réaction se fait jour. Et donc, pendant ce temps, la réaction s'est faite jour. Et Stand Up for Science, qui se développe partout dans le monde avec pour objectif d'aider au maximum les scientifiques américains menacés, essaie de mettre en place des choses. À Montpellier particulièrement, très fortement mobilisé en mars et en avril, le mouvement s'est organisé. 2000 chercheurs actuellement demandent des moyens pour que la France soit vraiment un refuge des universités américaines. Pour l'instant, seul Harvard résiste et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les budgets français ne peuvent absolument pas satisfaire les chercheurs américains. Jeudi 1er mai, la mer Méditerranée est devenue la 5e zone au monde à contrôler les émissions de gaz à effet de serre. Une action sur la limitation des oxydes de soufre, le CECA en anglais, dispense depuis 2020 d'une zone définie par l'OMI qui vise à prévenir les pollutions atmosphériques dues au transport maritime. En fait, ce qui est mis en œuvre aujourd'hui est très important, mais il va relever d'un contrôle drastique dans tous les ports du pourtour méditerranéen. Et donc, ce sera à suivre.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.